J'aimerais, donc, vous pouvez déjà chercher dans vos Bibles, nous serons dans Marc chapitre 12, Marc chapitre 12, et c'est au verset 13 à 17, donc c'est pas beaucoup de versets, mais bien sûr, le verset qui se trouve là, c'est qu'on rend à César ce qui appartient à César, on rend à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et donc, c'est une phrase qu'on va entendre dire dans pas mal d'endroits différents, même des gens qui n'ont jamais étudié l'Évangile, ils vont dire rendre à César ce qui appartient à César. Ils vont pas dire la deuxième partie, rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, mais on entend la première partie. Avant de commencer cela, j'aimerais juste vous dire que dans l'Évangile, bien sûr, nous traitons chaque passage comme un passage important. Nous savons que Jésus, le Fils de Dieu, est en train de parler de toutes les promesses de Dieu et comment il les accomplit. Et donc, on vient à ces passages avec beaucoup de respect en sachant que Dieu est en train de parler. Mais il faut savoir que les gens qui vivaient ces situations ne voyaient pas toujours la même importance que nous. Okay? C'est-à-dire, quand ils venaient vivre ces choses-là, ils pourraient louper tout ou ils pourraient comprendre ce qui s'est passé. Et c'est un peu comme la vie de tous les jours. Vous savez que on peut passer une journée et puis une semaine après, on se souvient de rien que nous avons vécu ce jour-là. Et peut-être il y avait des possibilités importantes. Juste pour vous donner une idée de comment cela se passe, il y a quelques semaines, j'étais avec un groupe de personnes qui travaillent, ils gèrent des équipes dans une banque. Et nous étions en train de commencer donc notre journée qui s'était gérer son style, comment on fonctionne. Et quand on a commencé, j'ai dit, vous allez vous mettre à deux. Et voici les questions que vous allez vous poser l'un à l'autre. Et puis après, vous allez présenter cette personne aux autres qui sont là. Et quand ils sont revenus, donc il y avait deux personnes qui se connaissaient à peine. Ils se sont vus une fois parce qu'on a passé 2 jours ensemble, mais ils se connaissaient un peu, à peine. Et puis l'un a commencé à présenter l'autre, mais d'une manière qui montrait que les 40 minutes qu'ils ont passées ensemble à discuter ensemble étaient des moments importants pour les deux, importants pour les deux. C'est-à-dire, ils ont pris un exercice de juste poser quelques questions pour aller plus loin et vraiment faire un impact sur la vie de chacun d'eux. Et quand ils ont parlé chacun de l'autre, est-ce que l'autre apportait, est-ce que l'autre était, pourquoi l'autre était digne de notre estime aussi, toutes ces différentes choses, c'était à mettre en valeur l'autre. Et on voyait que quelque chose s'est passé pendant ce moment-là. Et j'ai dit à Stéphanie, quand je suis revenu à la maison, on donne un simple exercice aux gens. Il y a des gens qui vont dire, bon, donnez-moi les réponses, et puis parler comme ça. Et des autres qui vont faire de cela un moment essentiel, important et qui a un sens. Et je suis sûr que ces deux personnes vont jamais oublier ce qui s'est passé pendant 7 heures quand ils ont passé ensemble, parce qu'ils ont pris cette occasion pour vraiment apprendre quelque chose. Et c'est un peu ce qui se passe ici dans notre texte. Il y a des gens qui viennent à Jésus pour piéger Jésus, mais ils vont quitter avec une rencontre avec Jésus. Et cette rencontre avec Jésus va mettre en question donc l'essentiel de leur vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont vivre leur vie toujours focalisée sur Dieu et ce qu'il fait dans la vie. Alors, qu'est-ce qui prend de l'importance dans votre vie ce soir? Ça peut être des soucis que vous avez, ça peut être des gens qui sont en difficulté, ça peut être une activité que vous avez cette semaine, ça peut être les études, ça peut être chercher un appartement. Toutes sortes de choses peuvent envahir notre esprit et devenir important pour nous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous allons voir ce soir comment Dieu entre dans cette vision de choses pour dire, voici à travers moi ce qui est important et voici la confiance que vous pouvez avoir en moins. Donc, quand on regarde une semaine ou quand on regarde une vie, nous pouvons voir ici qu'il y a un point de vue qui nous aide à voir une perspective qui est juste, un point de vue qui nous aide à garder une perspective divine quand nous passons la semaine. Et c'est cela que Jésus va enseigner quand les gens lui posent une question, est-ce qu'on doit payer l'impôt au César? Il va leur donner une perspective et une direction qui dit, dans chaque chose, j'y entre, Dieu y entre. Et donc, il va donner un sens à tout cela. Donc, je propose qu'on lise le texte. Moi, je suis dans Marc chapitre 12, je vais lire en français, évidemment. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, » lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Et donc ici, nous avons ce petit texte, vous voyez, c'est que 5 versets, mais qui peut vraiment être une philosophie de vie, qui peut nous aider à voir les choses, c'est-à-dire rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc nous allons assez rapidement voir 3 choses. La première chose, c'est le problème, qu'est-ce qui se passe dans notre texte, qu'elle est en train de se passer. Deuxième chose, quel est le contexte et aussi de cette pièce de monnaie. Et puis, troisième chose, c'est le défi de Jésus. Quel est le rôle de Dieu dans notre vie? Et donc, on va juste commencer avec cette question qui vient. Notons bien que nous avons 2 groupes de personnes. Nous avons les pharisiens et les hérodiens. Et notons bien, il dit dans le texte, ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés. Alors, juste, je vous pose la question, c'est qui les a envoyés? Oui, on peut imaginer que ce sont les chefs religieux, peut-être des membres de Sanhédrin, qui envoient ces personnes ici. Bon, la première personne que nous voyons, ce sont les Hérodiens. Et qu'est-ce que nous savons des Hérodiens? Absolument rien. Okay? C'est-à-dire, on n'a pas grand-chose dans toute l'histoire que nous avons qui parle d'eux, mais on apprend qu'il y a ce groupe, probablement c'est un type de parti, aussi un secte, mais ce que nous pouvons imaginer, que ce sont des gens qui sont ligués avec la famille royale et politique d'Hérode. Vous vous souvenez, Hérode le Grand est celui qui a voulu tuer Jésus, et c'est lui qui était roi quand Jésus est né. Et après, il y avait ses fils et ses petits-fils qui ont pris le pouvoir partout en Palestine. Peut-être y voyaient en Hérode, donc ces gens, le meilleur compromis possible entre des espérances messianiques ou juives et en même temps de garder la paix avec Rome. Nous ne sommes pas sûrs de ce qui se passe, mais ce sont des gens qui sans doute cherchaient une certaine indépendance des Juifs, mais aussi de collaborer avec Rome. Et en Hérode, ils voyaient quelqu'un qui faisait faire les 2 choses, qui aux Romains se présentait comme un Romain, et regardez ce qu'il a pu construire pendant qu'il était là. Il a été à Rome, il a vu Rome, il est revenu en Israël, et il a essayé de construire Rome, si on veut, en Israël, et il a réussi pas mal dans les différentes choses. Mais en même temps, il devait respecter les croyances juives, et même juives, et il voulait être accepté comme un juif. Le deuxième groupe que nous avons, ce sont les pharisiens. Et nous savons que ces gens existent déjà à ce moment-ci depuis plus de 100, peut-être 160 ans. Ce sont des gens qui interprètent exactement les lois de purification de l'Ancien Testament. Joseph, l'historien, dit qu'il nombrait autour de 6000 personnes. Nous en connaissons quelques-uns, par exemple l'apôtre Paul, qui était un pharisien. Torah et tradition, les 2 piliers des pharisiens. Et même si Jésus avait des amis et des alliés parmi les pharisiens, dans ces chapitres, les pharisiens sont toujours ses ennemis. Ils sont toujours là pour le piéger. Et donc, ils viennent avec une question. Et leur question, c'est depuis 90 ans auparavant, Israël donc a été sous la domination de Rome. Entrés dans la ville, sur le général Pompée, les Romains, ils règnent pour toujours. Ils ne sont jamais quittés la ville. Et comme je vous ai montré la dernière fois, ils ont même construit une tour, une forteresse, juste à côté du temple, qui rivalait le temple et qui était là pour rappeler les gens que, oui, ils servaient Dieu, mais aussi ils devaient servir Rome. Si Jésus dit qu'il ne faut pas payer de taxes ou ses impôts, il sera un messie en rébellion ouverte contre Rome. Et donc, il serait arrêté et sans doute tué de suite. Si Jésus répond avec un oui, qu'il faut payer ses impôts, donc il risquerait la haine de la foule. Ça serait un tout petit peu, et c'est pas exactement la même chose, mais comme la France, pendant la Deuxième Guerre, que les impôts qui étaient imposés sur les Français pour soutenir les efforts de guerre en Allemagne nazie. Et si on posait la question, est-ce qu'un vrai Français patriote peut payer des impôts demandés par l'Allemagne nazie? Est-ce qu'on peut le faire ou pas? C'est un peu la même question qui est posée ici. Est-ce que nous pouvons ou est-ce que nous devons payer des impôts à Rome, donc qui est venu nous envahir, ou est-ce qu'il faut l'éviter? Alors, je n'arrive pas à voir Jésus changer d'avis parce qu'il aurait peur de la foule. Donc, ça, vous êtes d'accord. Il va pas simplement essayer de plaire à la foule. C'est pas son style. Peut-être il est limité dans certaines situations de dire une chose ou une autre. Par exemple, son moment n'est pas encore venu. Donc, il doit prêter attention à ne pas donner une réponse qui va céder à son arrestation et puis sa mort prématurée. Et donc, comme son moment n'est pas encore venu, il doit attendre la fin de la semaine parce qu'il sera donc arrêté d'ici 2 jours seulement. Alors, il doit marcher délicatement en posant en répondant à cela. Je crois que Jésus ne répond pas directement à la question. Je crois pas que son but c'est de dire oui, il faut payer ou oui ou non, il ne faut pas. Je crois que la réponse est là, mais le but c'est pas de répondre à la question. Le but, c'est de faire de ceci un moment important dans la vie de chacun qui écoute pour voir quelle est la place de Dieu dans la vie. En tout cas, pour les Hérodiens, les pharisiens, ils ont dû penser qu'ils avaient trouvé la meilleure question de tous les temps pour piéger Jésus, parce que si Jésus disait non, on va pas payer les impôts, c'est pas eux qui vont le mettre à mort, ça serait les Romains. Et s'il dit oui, il faut le payer, alors c'est le peuple qui va le déchirer en morceaux parce que quel type de messie avons-nous qui va faire dire qu'il faut payer des impôts? En tout cas, je crois que c'est cela qu'ils ont pensé. Donc Jésus sera prêt à résister aux Romains, il serait prêt à dénoncer la foule, mais il va faire autre chose. Son but est de parler d'autre chose. Et donc, voyons comment il pose la question. Il pose avec, on appelle cela la flatterie. Okay? Tu es vrai, tu ne redoutes personne, tu ne regardes pas l'apparence des hommes, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Okay? Mes amis, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Mais leur motivation était de manipuler Jésus pour que, dans son arrogance ou son orgueil, qu'il donne une réponse qui allait causer des problèmes. Me semble assez évident qu'ils ne croient pas totalement à leurs paroles, non dans le sens qu'ils les disent, mais dans le sens qu'ils ne sont pas prêts à suivre celui qui est vrai, celui qui ne redoute personne, celui qui ne regarde les apparences des hommes, et celui qui enseigne les voies de Dieu selon la vérité. Ils ne sont pas prêts à suivre cette personne. Toutes ces choses sont vraies. Jésus est juste, bon, un enseignement droit et honnête, qui ne peut pas mentir. Il devrait mettre leur confiance en lui, mais ils vont pas le faire. Et donc la réponse de Jésus, c'est pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Jésus n'a pas la langue de bois, il va donc inviter la foule à apporter un denier. Et notons bien, il ne dit jamais s'il a redonné le denier qu'il a reçu. Okay? Alors, quelle est la réponse de Jésus? Il dit, regardez l'effigie. Regardez l'effigie. Nous savons que entre 14 et 37 après Jésus-Christ, que l'empereur était Tibère. Et nous pouvons penser, sans trop d'imagination, que c'est cette pièce-ci qu'on lui a montrée. Et là, si vous regardez, il y a une inscription qui se trouve ici autour, qui dit « Tibère César Divi Augustus okay? ». Puis par la suite, il dit « Filius Augustus ». Les majuscules et ce qui est en jaune, c'est ce qui se trouve sur les pièces. Okay? Ce sont des abréviations que nous avons pour le tout. Donc, il veut dire Tibère César Auguste, fils du divin Auguste. Okay? Vous voyez ce qu'il dit? Donc, Tibère César Auguste, donc fils du divin Auguste. Et puis, au verso, nous trouvons Maximus Pontifex, qui veut dire quoi? Souverain.
Pontifice. Ouais. Aussi la puissance religieuse.
Ouais, c'est le souverain prêtre qui est là,
Il avait la puissance politique et religieuse.
Oui. Et donc l'effigie Pax aussi, c'est l'idée de Pax, c'est-à-dire le dieu de la paix, qui est assis sur un trône. Okay, c'est ça que nous voyons, juste pour vous remettre comme cela. Donc ça, c'est Pax qui est assis sur le trône. Okay? Et là, nous avons ce Maximus Pontificus. Okay? Je sais pas, mon latin est très mauvais. Et puis là, nous avons l'autre partie qui dit, comme nous avons vu, donc Tibère César à Auguste, fils de Dieu d'Auguste. La première point que je vois, c'est combien cet argent, cette pièce, devait gêner les Juifs. Hein? Car ce n'était pas seulement un signe de l'oppression romaine, mais aussi de l'idolâtrie, un blasphème contre Dieu lui-même. Auguste n'était d'aucune manière divin. Et le roi, celui qui régnait sur le monde entier, était Dieu lui-même. Il intercédait pour son peuple avec justice, avec compassion, avec amour, avec miséricorde. Et il a mis en place des prêtres pour le servir et pour offrir des sacrifices, pour servir de pont entre Dieu, lui, et son peuple. Donc, le juif fidèle, à l'époque de Jésus, attendait que le descendant de David vienne pour régner, le Messie qui règne pour, il règne au-dessus de toutes les nations. Et le deuxième point que j'aimerais vous montrer, c'est combien ceci devait être quelque chose qui gênait le Fils de Dieu. Combien il le voyait comme un blasphème, un affront, une insulte, que Jésus lui-même a dû ressentir au plus profond de lui. Parce que le divin Auguste n'était pas divin. Le seul, c'était son Père dans les cieux. Et le Fils de Dieu, c'était pas Auguste ou Tibère. Le Fils de Dieu était Christ lui-même. Et donc, l'affront est contre lui. Et si quelqu'un allait dire, il faut se débarrasser totalement de cette pensée païenne, et son respect, c'est Jésus. Il avait assez d'informations là pour vraiment éliminer toute idée de donner des impôts, de payer des impôts à Rome. Et c'est cela que nous voyons. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le roi. Il est aussi, nous apprenons dans Hébreux, qu'il est aussi le souverain sacrificateur. Et donc, ce que Auguste a pris pour lui-même, ou Tibère a pris pour lui-même, Jésus avait, parce qu'il était le Fils de Dieu. Juste pour une chose pour vous montrer. Alors, bravo, on a lu ce matin, cet après-midi, le texte de Psaume 132, qui est un psaume messianique. Okay? C'est ça que nous avons lu. Mais ici, c'est le texte de Psaume 2. Le texte de Psaume 2 dit ceci. « C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je publierai le décret de l'Éternel. Tu m'as dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu lui briseras avec un sceptre de fer comme le vase d'un potier. Tu les mettras en pièces. » Jésus est le Fils de Dieu. Il est Emmanuel. Il est Dieu avec nous dans sa nature. Il est celui qui pardonne, il est celui qui calme la tempête, il est celui qui sert aussi de pont entre son peuple et Dieu. C'est lui qui donne le pardon. Et donc Jésus a répondu à la question, il va dire, rendez à César ce qui appartient à César, simplement payez la taxe, a-t-il dit. Souvent nous entendons avec Romains 13 à l'appui que le disciple est tenu de remplir ses obligations comme citoyen, autant qu'un être humain soumis aux autorités. Mais il ne faut pas oublier Dieu dans toute cette histoire. D'abord, regardons ce que nous avons ici dans Romains chapitre 13, les versets 6 à 7. Ce texte dit, dans Romains chapitre 13, les versets 6 à 7, « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. » Rendez à chacun ce qui lui est dû. Où est-ce que vous croyez qu'il a appris cela, Paul? Rendez à chacun ce qui lui est dû. Peut-être de Jésus lui-même. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est Dieu qui avait établi Rome, qui avait mis Rome dans cette position de pouvoir. Et notons bien, dans notre texte au verset 6, il dit « Car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise, c'est-à-dire pour punir les crimes commis par les méchants. Dieu nous a dit cela avant. Vous vous souvenez de Daniel chapitre 2. Nebuchadnezzar qui voit la statue avec la tête en or et puis les quatre différentes parties qui représentent quatre différents royaumes. Nous nous souvenons que la tête en or, c'est Babylone. La poitrine en argent, c'est les Perses et les Mèdes. Le ventre en cuisse de bronze, ce sont les Grecs. Et puis les jambes en fer et ses pieds en argile de fer, c'est Rome, l'Empire romain. Ce sont quatre royaumes, nous dit Daniel. Babylone, les Perses et Mèdes, les Grecs, les Romains. Et pendant le règne des Romains, Dieu dit que j'établirai mon royaume. Un royaume qui va détruire les autres, un royaume qui sera éternel, un royaume qui aura le fils de David sur son trône. Quand nous lisons ceci, ces choses, nous apprenons, c'est Dieu qui est maître de l'histoire, que Dieu est en train de faire sa volonté. Il a promis que pendant l'Empire romain, il y aurait le royaume de Dieu qui est formé. Dieu aurait pu arrêter le royaume de Rome pour qu'aucun impôt soit payé. Il a choisi de faire autrement, d'établir son règne pendant ce moment-là. Et donc, c'est Dieu qui dirige toutes choses. Et il dit donc, rendez à César ce qui appartient à César. C'est pour cela que je vous encourage vivement. Non parce que c'est seulement la loi. Non, ça parce que je veux que vous dormiez bien sans culpabilité. Mais je veux que vous payiez vos impôts. C'est ce que Jésus a enseigné. Alors, ne payez pas trop d'impôts, ok? Vous n'êtes pas obligé de donner plus qu'il le faut, ok? Mais ne faites pas un sport national d'éviter de payer ce que vous devez au niveau des impôts. Deuxième chose que nous remarquons, c'est qu'il dit « rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Ce que j'aimerais juste que vous voyez que c'est ça vraiment la leçon principale que Jésus veut donner. Ce n'est pas une leçon sur les impôts. Les Juifs étaient obligés de faire cela quand même. Et c'est seulement juste avant leur destruction, en 67, qu'ils vont arrêter de payer les impôts. Et là, ils auront toute la colère de Rome qui viendra contre eux. Jésus désire surtout que Dieu reçoive honneur et le respect qu'il mérite. Et les gens religieux négligeaient de rendre honneur à Dieu. Et surtout, ils négligeaient de rendre honneur à Jésus. Peu importe leur connaissance, peu importe leur activité, ils avaient refusé de donner à Dieu ce qu'ils cherchaient le plus. Ces gens ont oublié de donner à Dieu eux-mêmes. Ils n'ont pas donné à Dieu le cœur. Ils n'ont pas donné à Dieu leur force. Ils n'ont pas donné à Dieu leur pensée. Et donc, à cause de cela, ils sont dans l'erreur. Ils se sont cachés de Dieu. Ils se sont cachés de sa volonté derrière leur tradition, derrière leur manipulation, derrière le pouvoir. Et à cause de cela, malgré leur jeûne et malgré leur prière, ils manquaient Dieu. Et ils ne rendaient pas à Dieu ce qui appartenait à lui. Quand nous tournons la page à nos Bibles et nous regardons au chapitre 12, nous lisons en 12, la fin du chapitre, le verset 30. Il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Si on doit les impôts au gouvernement, qu'est-ce que nous devons à Dieu? Bon, la vie, notre cœur, notre pensée et notre force. Est-ce que Dieu est ma vie? Est-ce que Jésus est ma vie? Est-ce que je lui ai donné tout ce que lui appartient? La question des Hérodiens et des Pharisiens nous met aujourd'hui devant la vraie question. Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Ai-je rendu à Dieu ce qui lui appartient? Ou est-ce que je garde cela pour moi sans penser à comment lui plaire? Je ne peux pas me désengager de Dieu, ni de son travail, ni de son peuple, et croire que je rends à Dieu ce qui lui appartient à Dieu. Je ne peux pas vivre ma vie, même en suivant les règles, sans lui donner ma vie, en pensant que je suis en train d'honorer Dieu. Et donc, nous entendons clairement, non seulement rendez à César ce qui appartient à César, mais rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et ça, c'est notre défi, de lui donner tout et de nous engager à faire cela. Parce qu'en faisant cela, nous aurons l'honneur qu'il nous a promis aussi.